Chapitre 23e. Dès 8 heures du matin, Éloi Madiot avait commencé une tournée pour célébrer l'entrée d'Antoine à la caserne. Les conscrits devaient être rendus le lendemain à La Roche-sur-Yon. Antoine prendrait donc, avec les camarades, un train du soir. Il était midi. L'oncle et le neveu avaient fait d'abord une station à la Croix de Fer, vieil hôtel situé près des ruines de l'usine Le Marié, où l'habitude ramenait le vieux cloueur de caisse. De là, à travers le quartier des ponts, il s'était rendu sous les treilles d'un cabaret de banlieue, non loin de la prairie de Mauves, un endroit fameux, disait Éloi, où il y a un petit muscadet de Loire si drôle qu'on danse en le voyant. Il dansait un peu avant de l'avoir vu, congestionné par la fouettée d'air vif qui descendait la Loire. Il fêtait l'entrée au régiment, des souvenirs qu'il tenait pour glorieux, pour une sorte de devoir militaire, lui représentait cette veille de départ comme un jour de vacarme et d'ivresse. Et tout ce qu'il avait gardé d'entrain et de juron était dehors. Il parlait haut, racontant des choses lointaines d'une armée qui n'est plus, citant des noms, à jamais obscurs, d'officiers qu'il avait connus et de villages où il avait campé. De son bras gauche, encore raidi par la blessure, il tirait, il traînait presque ce pâle neveu, chétif à côté de lui, et qui ne comprenait point. Par la gaieté, le vieux semblait le plus jeune. Sur ses fortes épaules, sa tête rouge et blanche, dodelinait. En passant devant les marchandes de légumes, assises entre leurs paniers comme dans une niche verte, il abaissait les yeux sur le chapeau mou qui lui frôlait l'épaule et souriait dédaigneusement pour faire entendre « Voilà les conscrits d'aujourd'hui. Est-ce que ça me ressemble? Voyez, mes belles, ce que nous étions, ce que nous sommes. » L'autre, souple, les yeux fureteurs, se laissaient conduire, pas plus troublés que d'habitude. À présent, ils avaient retraversé la ville, sans savoir pourquoi, et, incapables de déjeuner, sentant le besoin de combattre la fatigue qui grandissait, ils étaient attablés au fond d'une gargote de la rue Saint-Similien aux 7 frères tranquilles. Éloi, assis à contre-jour, continuait de parler avec une animation croissante, mais la figure du vieil ouvrier avait cessé d'être expressive. Elle n'obéissait plus que malaisément à l'effort de l'idée, et ce n'était qu'une obéissance partielle, un mouvement de la mâchoire, qui n'intéressait ni les yeux, ni le front, ni les joues, fixés dans l'hébétement de l'alcool. Antoine, à côté contre le mur, ne buvait plus. Tous deux, sur la table de marbre, ils prenaient et soulevaient de temps à autre un verre de mauvais absinthe, en disant « À la tienne, à la vôtre !» Mais l'oncle seul ouvrait la bouche pour essayer de boire, et à chaque coup, des gouttes de liqueur verte, échappées et coulant entre les poils rasés de sa barbe, le faisaient frissonner comme une brûlure. Cela l'irritait et l'excitait autant que ce qu'il avait bu. La salle était pleine d'une fumée de ragoût qui mouillait le plafond. Des habitués mangeaient aux tables les plus voisines de la devanture basse, que voilaient jusqu'à la deuxième vitre des rideaux de lustrine verte. Aucun ne semblait entendre la discussion qui s'animait. La voix de chantre d'Éloi Madiot, le fossé traînant d'Antoine. Seule, une grande fille rousse et lasse, la servante assise près de la devanture, un rayon de soleil dans les cheveux, le coude appuyé sur la tringle du rideau, épiait du coin de l'œil et sans tourner la tête ce petit mécanicien qu'elle connaissait. « Enfin, de mon temps, disait l'oncle, on était plus gai que ça la veille du départ. Tu n'as pas l'air d'un conscrit. » « Je vous ai dit mon avis là-dessus, mon oncle, et je n'en change pas tous les jours. Je vais au régiment comme à mon malheur. » Il acheva sa pensée d'un geste de la main et de la tête rejetée en arrière qui signifiait « J'aurai tout le temps l'idée d'en sortir, et tous les moyens me seront bons. » Le vieux, qui ne pouvait se retenir de donner des conseils, trop enfoncé d'ailleurs dans l'ivresse pour remarquer la violence froide de ces mots d'Antoine, poursuivit « Tu verras, suffit de se mettre bien la théorie dans l'esprit et d'obéir au chef, et puis de regarder comment font les autres. Pas trop de boissons au régiment, pas trop de femmes non plus. Les officiers n'aiment pas que les soldats aient un ménage en ville. » Il cligna l'œil droit et ajouta « Si tu as une petite amie, Antoine, l'emmène pas. » Et le pauvre homme crut que son neveu riait, tandis qu'Antoine frémissait, atteint au fond de son être, car il l'aimait, lui aussi, la malheureuse fille qu'il allait quitter. L'oncle se força un peu pour rire, afin d'être à l'unisson, et trouvant l'occasion favorable pour poser la question depuis si longtemps réservée, « Je pense que tu as une mauvaise tête, Antoine, mais que tu voudras tout de même faire honneur à la famille. À moi d'abord, et puis... » Une voix sifflante et basse l'interrompit. « La famille ?»«
Eh bien oui, » dit le bonhomme. « La famille, ta sœur et moi. » »«
Faut pas me la faire, le vieux. Je la connais, ma famille, et je sais que j'étais volé, volé, volé. Entendez-vous ?»
Antoine s'était courbé sur la table, tout près de l'oncle Madio, qui faisait signe de sa mauvaise main.
« Pas si haut, pas si haut !»
Il entendait les glissements de pieds des clients qui écoutaient. La servante rousse, au bout de la salle, se renversa sur sa chaise en riant.
« Eh, là-bas, vous autres, faut pas vous battre !»
Mais le jeune homme, emporté par la rancune qui avait fait dévier toute sa vie, continuait, jetant ses mots à la face du vieux.
« Oui, j'étais volé par celle qui n'avait pas de droit chez nous. Elle m'a pris ma part de tout. Vous, l'oncle Madio, vous m'avez trompé.
C'est pas vrai, je n'ai rien dit.
Mais je sais tout, j'ai appris tout. Le jour où je l'ai su, je suis parti pour ne plus vous voir. Je n'ai jamais rien été chez vous. Il y a toujours fait la loi. Dites donc que ce n'est pas vrai, niez-le donc. Pourtant, je suis le fils du père Madio, moi. Quand je la rencontre, le cœur me tremble de jalousie.
Antoine, tais-toi maintenant, tais-toi.
Si c'est ça ce que vous êtes venu chercher, vous êtes servi, je la déteste.
À ce mot-là, Antoine s'était levé. Il ne faisait plus attention à l'oncle Madio, qui courbait de honte ses grosses épaules. Il regardait, autour de la salle, les consommateurs devenus attentifs et qui tournaient la tête, cauteleusement, du côté du bruit. Mais au fur et à mesure qu'il rencontrait les yeux gris de l'ouvrier, il se remettait à considérer leur verre comme indifférent à tout le reste. Quand il jugea le cabaret rentré dans l'ordre, Antoine tira de son gousset une pièce de 40 sous et la jeta sur le marbre.
« C'est moi qui paye, » dit-il tout haut.
La pièce sonna. La fille rousse se redressa, et l'œil sur la rue, entre les tables, Antoine s'avança, pâle comme ceux qui vont s'évanouir. Le vieux marchait en arrière, à petits pas mous, ronchonnant on ne savait quoi, les yeux baissés, la moustache blanche relevée par un pli terrible. Plusieurs eurent l'idée que les deux hommes allaient se battre, en effet. Il n'en fut rien. Antoine s'arrêta sur le seuil des 7 frères tranquilles. Il examina la boue qui blondissait, puis l'ouverture de la rue, par où venait un soleil d'automne incliné et faible, et il monta vers la gauche. Alors, derrière lui, une voix formidable, faussée par la colère et par le vin, une voix qui fit sonner les devantures de la rue Saint-Similien, cria « Dermine !» Ce fut la dernière parole, l'adieu à jamais. L'ouvrier haussa les épaules et continua son chemin. Il alla droit chez sa maîtresse, et dans la cour, entre des murailles habitées comme des cloisons de ruches, lui, pour la première fois, au lieu de se glisser, il appela « Marie !»